Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Emmanuel H. Vous êtes économiste à l'IFP Énergie Nouvelle. Vous êtes également directeur de recherche à l'IRIS et vous venez de publier avec Samuel Carcanac dans la revue de l'IRIS au numéro 113, printemps 2019, une géopolitique de la transition énergétique. Alors, on connaissait la géopolitique de l'énergie. Faut-il maintenant ouvrir le champ et consacrer une nouvelle matière ou un nouveau domaine à la géopolitique de la transition énergétique?
Oui, clairement oui. Il faut véritablement investiguer ce nouveau champ de la géopolitique des énergies renouvelables, tout simplement parce que lorsque l'on parle de transition énergétique, peut-être que nous nous trompons, puisque lorsque vous regardez un tout petit peu ce qui se passe en termes de consommation énergétique depuis les années 70, en fait, on a plutôt vécu une addition énergétique plutôt qu'une transition réelle, hein, c'est-à-dire que certes on a eu une substitution un tout petit peu des énergies, on consomme relativement moins de pétrole, peut-être un peu plus de gaz, à peu près autant de charbon, et effectivement la part des énergies renouvelables a augmenté, mais toutefois en fait de manière en valeur absolue, j'allais dire, les énergies ont tout augmenté, et donc finalement on est plus dans de l'addition énergétique que dans la substitution, dans la transition énergétique. Et dès lors, on peut se dire que il y a une addition de la problématique énergétique. C'est-à-dire que là, on avait une seule géopolitique des hydrocarbures. On a également un champ qui se forme autour de la géopolitique des énergies renouvelables, car les énergies renouvelables ont elles-mêmes des questions géopolitiques en elles.
Alors, comment définiriez-vous la transition énergétique? Quelle est, pour le public qui nous écoute, quelle serait la bonne définition de ce terme?
Alors, la bonne définition de ce terme, à la base, c'est de substituer la consommation primaire. C'est-à-dire que, progressivement, vous allez remplacer tout l'ensemble un petit peu carboné, c'est-à-dire pétrole, gaz, charbon, par des sources renouvelables qui viennent du vent, des marées, du soleil. Et donc, c'est ce corpus-là d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte par exemple l'énergie solaire, les énergies éoliennes, on va prendre bien évidemment l'hydroélectricité qui préexistait bien évidemment bien avant même les sources carbonées, et cet ensemble va faire les énergies renouvelables.
Alors en quoi la transition énergétique est un objet géopolitique et pourquoi cette géopolitique-là est-elle particulièrement complexe?
Alors pourquoi elle est complexe? Parce que, alors déjà intuitivement...
En quoi est-elle un élément géopolitique?
Alors en quoi c'est un élément géopolitique? Intuitivement, on a l'impression que si on utilise des énergies non carbonées, par exemple du solaire ou de l'éolienne, on va s'affranchir de certaines tensions géopolitiques. Hein, je m'explique. Par exemple, si vous installez une éolienne ou un panneau solaire dans votre jardin, vous n'allez le prendre à personne. Alors que pour les énergies carbonées étaient toutes concentrées de manière géographique et elles induisaient des tensions, des conflits, des points de passage. Hein, on peut penser notamment au détroit d'Ormuz, on peut penser à Malacca. Pour les énergies renouvelables, on a l'impression qu'on va pouvoir s'affranchir de cela parce que quelque part, elles sont à la portée de tout le monde. Le problème, c'est qu'on crée de nouvelles dépendances et ces dépendances-là sont géopolitiques. Et parmi ces dépendances, on va avoir notamment une nouvelle dépendance aux matériaux. Car pour produire ces énergies renouvelables, il faut des matériaux qui sont stratégiques. On va aussi avoir une dépendance à la technologie. Et on va avoir également une dépendance, alors c'est pas forcément une dépendance, mais on va avoir des interrogations face à ce que vont devenir les anciens pays producteurs d'hydrocarbures. On peut penser notamment aux pays du Moyen-Orient.
Mais donc, en fait, lorsque l'on dit que les énergies renouvelables sont la voie vers l'économie, vers l'indépendance, si je vous entends bien, en fait, c'est tomber d'une dépendance dans une autre.
Effectivement. C'est-à-dire que lorsque vous regardez même le concept géopolitique de sécurité énergétique, hein, on a deux notions qui sont prépondérantes, c'est la disponibilité et l'accessibilité. Alors effectivement, ces deux notions, les énergies renouvelables sont accessibles, les énergies renouvelables sont disponibles. Le problème, c'est comment on va produire ces énergies renouvelables? C'est-à-dire que vous prenez par exemple des éoliennes, il va vous falloir des aimants permanents. Vous prenez un véhicule électrique, il va vous falloir du lithium, il va vous falloir du nickel, du cobalt. Et tous ces éléments, en fait, sont produits par certains pays. Et certes, ces pays vont avoir leur propre géopolitique par rapport à la transition énergétique. C'est pour ça qu'on parle de matériaux stratégiques. Et c'est pour ça qu'il y a certains pays qui vont pouvoir s'affirmer, qui vont avoir un pouvoir de marché dans la transition énergétique internationale.
Alors, quelles sont les grandes zones dont on deviendrait dépendant? Disons que, est-ce que l'on va passer d'une dépendance à la Russie, au Proche-Orient, à une dépendance à d'autres zones géopolitiques, si l'on veut produire de l'énergie solaire ou de l'énergie éolienne?
Alors, il y a tout d'abord tous les produits et tous les pays miniers. Tous les pays miniers, et en tout premier lieu, on a des très très grands pays miniers, on peut penser notamment au Canada, à l'Australie, mais d'un point de vue géopolitique, on a peut-être beaucoup moins d'inquiétude envers l'Australie ou le Canada qu'envers la Russie. Mais on peut penser à certains pays, notamment d'Amérique latine, on peut penser au Chili. Le Chili, c'est un pays qui potentiellement pourrait émerger à la fois d'un point de vue économique, mais également d'un point de vue de son pouvoir de marché sur la scène internationale, tout simplement parce que c'est le premier produit mondial de cuivre. Or, il faut beaucoup de cuivre en fait dans ces technologies de transition énergétique. Il est un très important producteur de lithium, hein, c'est le deuxième au monde. Et lorsque vous regardez toutes les technologies qui sont liées par exemple au stockage ou aux véhicules électriques, vont consommer une part très importante en fait de ce lithium. Et donc vous risquez d'avoir, on peut penser également à l'Argentine, hein, on peut penser également à l'Australie, hein, sur la question du lithium, mais on va avoir une affirmation possible de ces pays sur la scène internationale.
Alors donc, dépendance par rapport aux pays producteurs de minerais, donc si je comprends bien, plutôt Amérique latine, l'Afrique n'est pas concernée
Si, bien sûr, l'Afrique est concernée. Hein. Sur le cuivre, on peut penser à la Zambie, et puis sur le cobalt, bien évidemment, on a la République démocratique du Congo qui produit à l'heure actuelle près de 60% du cobalt. Et encore une fois, hein, si on veut... Qui n'est pas riche pour autant et qui subit, hein, j'allais dire, des problèmes de gouvernance minière qui sont très très importants. Mais malgré tout, si l'on veut rentrer dans une phase d'accélération de la pénétration du véhicule au niveau international, on va être dépendant en fait de ces pays qui produisent ces matériaux dits stratégiques.
Donc en fait, les énergies renouvelables ne nous rendent pas indépendants de la malédiction des matières premières. Elle existe toujours, elle se déplace, mais elle est toujours là.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que la dépendance est toujours là, on passe d'une dépendance à une autre, hein. Là on parle de la dépendance des matériaux, hein. En termes de maladie des matières premières ou de tous les phénomènes un petit peu macroéconomiques dits de Dodge Disease, etc. On peut aussi risquer pour ces pays une nouvelle malédiction des matières premières, parce que quelque part, si vous prenez par exemple le Chili, est-ce que le Chili a envie de rester enfermé dans un modèle de production de matières premières? Peut-être pas, il a peut-être envie de monter en gamme. Donc, il y a un double phénomène, c'est-à-dire que ces pays pourraient être des gagnants de la transition, mais ils pourraient également rester, j'allais dire, dans un modèle de producteur de matières premières, alors que des programmes de R&D ont été mis en place dans ces pays. Et finalement, est-ce qu'on ne va pas les garder comme producteurs de matières premières, en fait, dans cette transition internationale? Donc, c'est assez ambigu, au final, les conséquences pour ces pays.
Il y a en fait une grande permanence des questions structurelles de cette Dodge Disease dont vous parliez, donc de cette malédiction des matières premières, et le fait de passer aux matières premières du 21e siècle ne change pas fondamentalement la donne. Quelle est la solution? C'est une question de gouvernance, c'est une question de stabilité de l'État, du fonctionnement des élites. Comment on a très bien vu que pour la question pétrolière, certains pays s'en sortaient très bien et d'autres étaient au contraire atteints de cette malédiction de matières premières. Est-ce qu'il en est de même pour les énergies renouvelables? Et selon vous, de votre connaissance à la fois géopolitique et technologique de ceci, quels sont les pays qui vous paraissent mal partis et ceux qui vous paraissent mieux partis dans cette nouvelle donne?
Alors, pour répondre à votre question, en fait, clairement, les problèmes de gouvernance sont assez fondamentaux en fait pour contrer cette malédiction des matières premières, hein. L'investissement dans l'éducation, les investissements, j'allais dire, extérieurs. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas véritablement maîtres, en fait, de la production sur leur territoire. Si vous prenez encore une fois l'exemple du Chili sur le lithium, il y a une entreprise de lithium au Chili, hein, qui est très importante au niveau international, mais il y a d'autres entreprises internationales dans d'autres pays qui souhaitent tout simplement que le pays développe sa matière première. première. Et donc ça, ça permet bien évidemment de faire des rentrées fiscales, mais ça aussi, ça peut permettre, j'allais dire, de ne pas accélérer, j'allais dire, la montée en gamme, en fait, de l'économie. Donc il y a un problème de gouvernance. Après, il y a aussi des problèmes d'investissement, je vais mettre beaucoup de guillemets, hein, subis. C'est-à-dire, lorsque vous avez des grands pays de type comme la Chine, par exemple, qui vient chez vous et qui veut investir dans vos installations minières, est-ce que vous avez la possibilité de refuser de tels investissements? Donc, quelque part, on a une Chine qui provoque peut-être aussi une forme de primarisation de ses économies à travers les investissements dans les mines. On avait déjà vécu ce type de problème aussi dans l'agriculture. Ça, c'est d'un point de vue des producteurs. Mais en tant que consommateurs aussi de technologie, nous, qui consommons les technologies renouvelables dans les pays du Nord, on peut s'interroger sur notre propre modèle de développement. C'est-à-dire, est-ce que nous allons continuer à toujours consommer de la technologie et à ne pas rentrer, en fait, dans l'ère de la sobriété qui ferait que ces pays auraient bien évidemment, pourraient continuer à produire des matières premières, mais pourraient aussi faire autre chose dans leurs économies.
Alors, il y a une dépendance dont vous parlez dans ce numéro 113 de la Revue Internationale Stratégique aux matières premières, dépendance également vis-à-vis des technologies. Et là aussi, il y a une sorte de géopolitique des technologies de la transition énergétique.
Alors oui, parce que cette transition, on la présente souvent d'un angle technologique et on a raison de le faire. Car la transition énergétique à l'heure actuelle, c'est une transition technologique. On va passer aux véhicules électriques, on va passer, même si on connaît ces technologies depuis longtemps, mais on veut une accélération de ces technologies en fait dans le mix énergétique mondial. Et pour produire ces technologies, il faut des brevets. Et ce qui est très intéressant et ce qui est très alarmant, hein, d'un point de vue géopolitique, c'est qu'à l'heure actuelle, on a quand même une concentration de la R&D et des brevets des technologies des énergies renouvelables dans les pays d'Asie. Hein, on a un ensemble, hein, Japon, Corée du Sud et Chine, qui a fait une montée en puissance assez importante en fait depuis le milieu des années 2000. Hein, et à l'heure actuelle, plus de 50% en fait de brevets sont réalisés dans cet ensemble asiatique. Et on a notamment une dynamique chinoise sur les plus importantes technologies, hein, c'est-à-dire le stockage et le véhicule électrique, et notamment les batteries, qui la Chine s'affirme de manière assez importante en fait sur ces questions.
Et les concurrents américains, russes, européens sont loin derrière, sont relégués dans des rangs très inférieurs?
Ah non. En fait, il y a deux types de pays. Hein. Si vous prenez par exemple l'Europe et les États-Unis, et notamment les États-Unis, sont des très très gros producteurs de brevets. Hein. Ce sont encore eux qui dominent. Mais en dynamique, on a un rattrapage très important de l'Asie et notamment de la Chine. La Russie, elle se positionne à un niveau assez moyen en termes de brevets de transition énergétique. Son mix énergétique est encore carboné et c'est un pays qui n'est pas complètement encore rentré dans la transition énergétique.
Alors on parle beaucoup des terres rares. Est-ce que vous pourriez définir ce terme et qu'est-ce qu'il cache ? Quelle est la géopolitique des terres rares dont on parle de plus en plus dans la littérature stratégique ?
Alors, les terres rares, c'est une liste de 16 ou 17 éléments du tableau de Mendeleïev. Et ces éléments, si vous regardez un petit peu leurs utilisations, elles sont utilisées dans toutes les technologies, renouvelables, hein, que l'on parle du stockage, que l'on parle des aimants permanents, et ce sont des éléments en fait qui ont des propriétés qui permettent, j'allais dire, d'accélérer la transition énergétique, et même qui permettent d'accélérer la transition entre le digital et l'énergie. Et c'est pour ça que ces terres rares sont très importantes. Alors que dire sur cette géopolitique? On a un acteur qui est dominant, hein, quasiment en monopole en termes de production, c'est la Chine. La Chine produit ça dépend des années, mais entre 86 et 95% des terres rares au niveau mondial. Mais lorsque vous regardez au niveau des réserves, et là c'est beaucoup plus intéressant, il y a un ensemble en fait, Russie, Chine et également États-Unis en fait, qui a 60-70% des réserves. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Chine, elle domine le marché des terres rares parce qu'on l'a laissé aussi dominer les terres rares, c'est-à-dire que ce qui veut regarder ce qui s'est passé en Europe ou aux États-Unis, on a potentiellement fermé en fait tout le potentiel de raffinage de terres rares dans les années 80-90. Hein. En France, par exemple, on avait la dernière entreprise européenne qui raffinait des terres rares près de La Rochelle. Il y a une partie de son activité qui a été délocalisée, mais on a une géopolitique tout simplement parce que la Chine, elle sait qu'elle a maintenant le monopole sur les terres rares. Hein. Elle avait, dans les années 2010-2011, mis un embargo sur les terres rares, ce qui avait provoqué en fait une réaction assez importante, notamment du Japon, qui a découvert qu'il était dépendant de la Chine en fait pour ses métaux stratégiques.
Alors une compétition très forte sur certains matériaux stratégiques, comme par exemple le lithium.
Alors oui, il y a une compétition tout simplement sur le lithium, parce que le lithium, c'est typiquement un des matériaux de la transition énergétique. Il a deux usages principaux, hein, c'est le stockage et bien évidemment son utilisation dans les batteries, et plus précisément dans les batteries de véhicules électriques. Alors pourquoi ce métal est devenu géopolitique? Alors il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà une géopolitique, j'allais dire, qui se situe au niveau des pays. À l'heure actuelle, si on exclut le premier producteur mondial qui est l'Australie, on a ce qu'on appelle un triangle du lithium, hein, qui rassemble la Bolivie, l'Argentine et le Chili, où on a environ 60% des réserves mondiales de lithium. Et on a des stratégies de production qui sont complètement différenciées entre ces pays. Hein. L'Argentine, par exemple, ouvre largement avec le président Macri en fait son territoire aux investisseurs étrangers. Le Chili essaye de contrôler la production de lithium. Et la Bolivie, hein, que l'on cite partout lorsqu'on parle du lithium, en fait ne produit pas de lithium. Elle a des réserves, mais elle ne produit pas de lithium. Et donc, le futur marché du lithium, en fait, il va s'organiser autour de comment ces stratégies nationales vont évoluer autour du temps. Ça, c'est la composante pays. On a une composante entreprise également. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 5 entreprises qui contrôlent 90% du marché mondial du lithium. Et sur ces 5 entreprises, il y en a 2 qui sont chinoises et qui sont nées dans les années 2000 et plus précisément entre 2008 et 2010. C'est-à-dire qu'on a un risque de pouvoir de marché à la fois au niveau des entreprises, mais également au niveau des stratégies nationales. Et le troisième point qui est très intéressant d'un point de vue géopolitique, c'est que ces productions de métaux risquent elles-mêmes d'être contraintes par, quelque chose de plus environnemental, c'est-à-dire notamment la contrainte aquifère, c'est-à-dire pour produire ce lithium, il faut beaucoup d'eau. Et à l'heure actuelle, en fait, il y a des mouvements d'opposition de population pour utiliser l'eau pour les structures minières. Et donc, en fait, on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de risques qui sont associés en fait à cette production de lithium.
Le lithium, on s'en sert pour quoi ?
Bon, on s'en sert, on en a un peu partout, hein, dans nos téléphones portables, dans nos batteries de véhicules, on en a aussi dans l'air conditionné, on en a...
Il y a un pic pour le lithium, qu'on a parlé d'un pic pétrolier, est-ce qu'il y a une crainte d'un épuisement des ressources du lithium ?
Alors nous, on a fait quelques travaux dessus, à l'horizon 2050, dans un scénario 2 degrés, c'est-à-dire qu'on va, on essaie de respecter la contrainte climatique avec beaucoup de véhicules électriques. On utilise environ 50% du lithium au niveau mondial, c'est-à-dire que géologiquement, il n'y a pas de crainte de pénurie de lithium.
Et pour le cobalt ?
Alors pour le cobalt, c'est un peu
à quoi ?
Alors le cobalt, on le trouve aussi dans les véhicules, les batteries de véhicules électriques. Hein. Alors le cobalt, c'est une géopolitique particulière parce que vous avez 60% qui est localisé en République démocratique du Congo en termes de production. Par contre, lorsque vous passez à la phase d'affinage hein, du lithium, c'est-à-dire le stade d'après, c'est-à-dire que vous concentrez votre minerai, là la moitié des opérations en fait se font en Chine. C'est-à-dire que encore une fois en fait la géopolitique des minerais elle est intéressante parce que on peut se situer au niveau de la production mais on peut se situer au niveau du raffinage des minerais. Et là l'acteur principal c'est la Chine.
Alors est-ce que les pays qui sont producteurs de pétrole, d'hydrocarbures ont anticipé cette transition énergétique ? Est-ce qu'ils investissent ? Est-ce qu'ils préparent leur propre avenir ?
Alors lorsqu'on regarde les différents rapports, les rapports nationaux bien évidemment, hein, qui sortent sur ce sujet, si vous prenez l'Arabie Saoudite, vous aurez ce qu'on appelle la vision 2030. Vous regardez les Émirats Arabes Unis, il y a aussi une vision 2025 ou une vision 2030. C'est-à-dire que tous ces pays, depuis alors pour les Émirats arabes unis, les années 90, et beaucoup plus récemment, en fait, pour l'Arabie saoudite, et c'est un petit peu le même type de vision à l'horizon d'une dizaine d'années, ils essaient de préparer, ils essaient de se diversifier. Le problème, c'est comment se diversifier ? Comment, lorsqu'on est un pays qui a vécu, en fait, comment un pays rentier, en fait, peut-il arriver à se diversifier et comment va-t-il financer sa transition énergétique ? Alors, à l'heure actuelle, les efforts qui sont réalisés en matière d'investissement dans les énergies renouvelables ne sont pas extrêmement importants.
On a beaucoup parlé de la Chine, vous en avez parlé vous-même. C'est à la fois pour l'instant le premier pollueur et en même temps ils ont pris un grand tournant vers signature de l'accord de Paris, accord entre Xi Jinping et Obama juste avant l'accord de Paris. Est-ce que la Chine peut devenir un modèle énergétique et un modèle de transition énergétique ?
Alors, je ne sais pas si elle peut, mais en tout cas elle le souhaite. Les recherches qu'on a menées sur la Chine, en fait, on a un slogan désormais, en fait, quand on parle de la Chine, on dit toujours Make China Great and Green Again. C'est-à-dire qu'il y a véritablement la volonté pour la Chine à la fois de s'affirmer en tant que puissance, ça, elle n'a pas forcément besoin de l'environnement pour le faire, mais si l'environnement peut l'aider à s'affirmer en tant que puissance encore plus, elle va le faire. Alors bien évidemment, la Chine, c'est le pays à l'heure actuelle qui a le leadership écologique ou environnemental, en fait, mais j'allais dire de facto. C'est-à-dire que la sortie de Donald Trump, en fait, des accords de la COP21, la non-cohésion européenne en matière environnementale et puis son manque de volontarisme sur ces questions font que la Chine se retrouve à l'heure actuelle en tant que leader vert du monde. Mais si elle le fait, si la Chine le réalise, ce n'est pas tant pour un but de puissance, pour un objectif de puissance internationale. C'est beaucoup plus pour répondre à une demande interne. Pourquoi ? Parce que le Xi Jinping, il a tout à fait compris en fait que la première menace pour le régime à l'heure actuelle, il est environnemental. La pollution, c'est 1,3 million de morts en Chine actuellement. Ça coûterait environ 6,5% du PIB chinois depuis 2010. C'est-à-dire que ce sont des sommes qui sont véritablement extravagantes. Et les sols sont pollués. On estime par exemple que 16% des sols en Chine sont pollués. Je vais vous donner juste une petite image. Vous imaginez la surface de la Belgique, vous la placez en Chine, et c'est la surface des sols pollué sur le sol chinois. C'est-à-dire qu'on a véritablement une prise de conscience au niveau environnemental de la Chine qu'il faut accélérer la transition. Et c'est pour ça notamment que la Chine a développé la notion de civilisation écologique.
Et comment vous situez la France sur cet échiquier ? Est-ce que la France est bien placée dans cette géopolitique ?
Alors, la France, elle est, si on reprend les différentes thématiques, parce qu'on peut regarder aussi d'un point de vue des matériaux ou des technologies. Sur les technologies, la France, elle a investi en fait en termes de R&D dans les technologies solaires et éoliennes. Mais malheureusement, en fait, la compétition est très très importante en fait sur ces segments. Et j'allais dire qu'en Europe, seule l'Allemagne en fait s'en sort réellement sur les technologies. Même si la France, c'est un pays qui brevette, qui a encore une R&D assez importante en fait pour breveter des technologies renouvelables. Après, sur la question des matériaux, j'ai envie de dire, on a le deuxième territoire maritime international. Donc logiquement, on devrait avoir un potentiel en fait en minerais qui est très 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 important. On l'utilise pas, c'est un choix politique.
Et peut-être une conclusion sur comment définiriez-vous cette nouvelle géopolitique ?
Cette nouvelle géopolitique, elle va être beaucoup plus complexe. La géopolitique de l'énergie, en fait, que l'on a connue, qui était reliée aux seuls hydrocarbures, elle va se complexifier tout simplement parce que ces nouvelles dépendances, en fait, risquent de se rajouter. il va falloir beaucoup plus suivre en fait ce qui se passe, notamment en matière pétrolière, pour comprendre les futures évolutions de la géopolitique des énergies renouvelables. Tout simplement parce que le pétrole, si vous regardez, le prix du pétrole impacte directement à la fois le niveau de production de brevets. Hein. Si les prix des pétroles sont bas, on a très peu de brevets de transition énergétique. Il va impacter les incitations des pays consommateurs à investir dans les énergies renouvelables. Donc encore une fois, si le prix du pétrole est bas, il y a très peu d'incitations. Et puis il va inciter ou non les pays producteurs de pétrole à changer de modèle. Donc au final, on a une liaison vraiment très importante entre les différents éléments de cette géopolitique des énergies renouvelables, c'est-à-dire la dépendance aux matériaux, la dépendance aux technologies et les modèles de production. Et au final, bah, c'est cet ensemble qui constituera la géopolitique des énergies renouvelables et de l'énergie tout court dans les années à venir.
Merci Emmanuel H. Je renvoie à la lecture du numéro spécial de la revue internationale stratégique Géopolitique de la transition énergétique, c'est le numéro 113, publié au printemps 2019. Merci à vous.
Merci.